Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Bonjour à ceux qui reviennent. Ça nous fait très plaisir de vous revoir. Donc c'est quand même bien fait que le dimanche du premier tour des élections, ce soit le dimanche où on prêche sur les rameaux. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors j'avais prévu comme texte de lire la montée de Jésus à Jérusalem, et ben je vais. Malgré le fait que Philippe nous ait conduit aussi dans cette lecture, dans sa liturgie, je vais le relire aussi. Donc je vous invite à lire Luc 19 avec moi. Et je vous emmènerai dans deux autres passages aussi, le prophète Ésaïe et puis l'épître de Paul aux Philippiens. Mais d'abord Luc 19. À partir du verset 28, mais avant de lire la parole, on veut prier le Seigneur afin qu'il nous inspire dans notre réception et dans la proclamation de cette parole. Seigneur Jésus, nous venons nous plonger dans les Écritures saintes, conduites et inspirées. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à son écoute, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous transforme, que nous t'y rencontrions réellement. Et que cette rencontre, Seigneur, ait un impact dans nos vies, que nous soyons plus à ton image, et que nous puissions être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, et demeurer fidèles jusqu'à ton retour. Amen. Luc 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux disciples. Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Dites-lui. Le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent: Mais pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus et ils jetèrent leur manteau sur l'animal. Et ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis qu'ils approchaient de Jérusalem, par le chemin qui descendait du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Mais maître, fais taire tes disciples. Jésus leur répondit: Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Deuxième lecture dans le prophète Ésaïe, au chapitre 50. Verset 4. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu ouvre mon oreille et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu et je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. Le Seigneur est à mes côtés, il me donnera raison. Qui osera me faire un procès? Qu'il vienne avec moi devant le juge. Qui veut être mon adversaire? Qu'il se présente en face de moi. C'est le Seigneur qui me vient en aide. Qui pourra me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tout comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les mites. Et une dernière lecture dans le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 2. À partir du verset 6. Jusqu'au verset 11. Philippiens 2, 6, 11. Le Christ, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncer à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition d'un serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. De nos jours, lorsque nous voulons devenir un candidat à la présidentielle, il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et il nous faut, idéalement, il nous faut 1 ou 2 milliardaires derrière nous qui arrosent les médias et qui fassent une telle campagne autour de nous que la chose devienne évidente que nous soyons élus. Donc le pouvoir qui attire et alimente le pouvoir. Et ça ne date pas d'hier quelque part. N'est-il pas fascinant de voir cette histoire que le roi du monde, celui qui est destiné à recevoir tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, reçoit son pouvoir, non pas à coup de millions, de milliards, non pas à coup de pistons, non pas parce qu'il a un cercle de relations immense et infini, mais parce qu'il le mérite. Parce qu'il est réellement la meilleure personne qui puisse prendre ce poste. Normalement, nos élections présidentielles servent à désigner la meilleure personne pour prendre le poste. Mais les textes que nous venons de lire mettent bien en avant que Jésus, lui, il est réellement le mieux placé pour prendre ce poste. Je vais commencer par le texte de Ésaïe, où on voit ce cantique du serviteur chanté par le prophète qui dit « Comment est-ce que le Messie, celui qui est choisi par Dieu, se regarde lui-même comme un disciple, un bon élève, qui chaque matin reçoit la parole de Dieu, non pas une parole qui va servir à dominer, non pas une parole qui va servir à avoir raison, non pas une parole qui va avoir le dernier mot dans le débat, mais une parole utile, pertinente, efficace pour redresser celui qui est courbé. » Vous voyez, le disciple se met à l'écoute de la parole de Dieu pour recevoir les bons mots pour redresser celui qui est courbé. Ça pose déjà toute la coloration du programme. Et ensuite, quand il entend les exhortations de son Dieu, quand il envisage ce à quoi ça va le conduire, il ne s'enfuit pas, il reste avec persévérance, sachant qu'il va devoir offrir son dos pour les coups de fouet, sachant que sa barbe va être saisie et il va être humilié, sachant qu'on va lui cracher au visage de la salive et des insultes. Ce n'est pas très Covid. Mais il envisage ces choses et il les accepte. Disons qu'il accepte de les affronter. Parce que derrière ça, il y a une espérance plus grande qui est notre bien à tous. Alors j'en entends déjà qui vont dire « Non, non, c'est pour la gloire de Dieu. » Dieu n'est pas plus glorieux avant ou après la croix. La gloire de Dieu est la même. Mais la croix révèle la gloire de Dieu. D'accord ? C'est pas subitement les 7 milliards d'êtres humains se mettaient à glorifier Dieu, Dieu verrait sa jauge de gloire augmenter. D'accord ? Il n'est pas plus ou moins glorieux selon les sondages. Il est parfaitement glorieux, simplement nous nous en rendons plus ou moins compte. La gloire révèle la gloire de Dieu, la croix, pardon. Donc, quelque part, quand Christ obéit à Dieu son Père et qu'il accomplit toutes ces choses-là, ça glorifie Dieu le Père, c'est-à-dire que ça révèle au monde qui il est réellement. Mais ça n'augmente pas ou diminue pas sa gloire. Donc, la raison pour laquelle Jésus le fait, c'est pour nous. Dieu ne sera pas plus glorieux après. Ce sera le même. Jésus accepte de subir cette humiliation, ces fouets, ces crachats, cette barbe empoignée, parce que cela nous apporte la liberté. Donc un serviteur qui reçoit tout l'enseignement de son maître pour être une source de bénédiction. Pas pour avoir raison, pas pour avoir le dernier mot, pas pour être le plus grand, le plus sachant, le plus performant, mais pour être le plus aidant. Et un disciple qui écoute l'enseignement de son maître et qui va lui obéir quand bien même ça le conduit à l'humiliation, à la souffrance, à être exposé par amour pour nous. Donc on voit déjà que ce serviteur-là, ce Messie, il n'a pas une conception du pouvoir qui sert ses intérêts ou les intérêts de quelques-uns. Il n'a pas une conception de son autorité comme étant quelque chose qui doit s'asseoir sur les autres, mais de quelque chose qui vient soutenir les autres. Le texte que nous avons lu en Philippiens vient confirmer ce que nous avons lu dans le prophète Ésaïe, en le portant encore plus loin. Le texte d'Ésaïe parle d'un disciple, parle d'un serviteur. Le texte de Philippiens nous dit que ce Messie était Dieu, auprès de Dieu. Lui qui depuis toujours possédait la condition divine. Celui qui vient à notre rencontre pour nous sauver, c'est Dieu lui-même. Dieu qui prend la condition d'un serviteur. Et comme je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, je demandais au catéchisme pourquoi est-ce que Jésus est le roi des rois. Leur réponse unanime a été parce qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, si Dieu c'est le chef, le Fils de Dieu hérite le pouvoir de papa. Logique. Et on a lu ce texte ensemble pour voir que non. La raison pour laquelle Jésus reçoit tout le pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'est pas parce qu'il est le fils à papa, mais parce qu'il s'est fait le serviteur de tous. Il s'est fait le serviteur de tous, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. N'est-ce pas tellement en décalage avec notre réalité de vouloir que celui, qui se met au service de tout le monde soit celui devant qui tout le monde plie le genou? C'est tellement à l'envers de ce que notre monde nous enseigne. Pourtant, on a des traces de ça. Le mot ministre, ça vient du sens serviteur, en latin, je crois. L'idée, normalement, de nos élus qui doivent nous servir nous paraît évidente. Aujourd'hui, elle nous paraît discutable, voire douteuse. Nous avons des soupçons. Notre plus grand défi en campagne présidentielle, c'est à qui faire confiance. Et encore, je suis optimiste. C'est à qui donner le pouvoir qui nous fera le moins de mal. On en vient à des calculs savants pour savoir qui est le moins pire pour qui on va mettre au pouvoir. Enfin, on est loin d'être en confiance sur l'usage que nos élus feront de l'autorité que nous allons leur donner. Alors que Christ, lui, manifeste clairement, fils de Dieu qu'il est, que toute son autorité, il va la mettre au service de son peuple. Je reviens un peu sur ce texte de Luc. Christ monte à Jérusalem, juché sur un ânon. Des siècles auparavant, le roi David, qui avait eu malheureusement un peu trop d'épouses, se retrouve à avoir plusieurs fils qui convoitent le trône, dont en particulier le jeune Absalom, très prometteur, belle gueule, beaucoup de charisme. Et Absalom, pour séduire le peuple, s'était mis à parcourir la ville sur un char, avec des hommes d'armes qui couraient tout autour, une grande équipe, et puis il faisait des petits meetings comme ça, à droite, à gauche, il se mettait aux portes de la ville et il essayait de se rendre agréable aux gens. Quand Absalom va faire un putsch pour essayer de prendre le pouvoir, David va rapidement demander à une autre petite coalition de mettre sur le trône Salomon, celui qu'il avait désigné. Et si Absalom parcourait la ville sur un char, David demande à ce que Salomon soit monté sur une mule, sur un âne. Et on voit ici quelque part se dessiner ce contraste entre celui qui cherche à saisir le pouvoir par la puissance, la force, la vaillance, et celui qui ne demande même pas d'ailleurs, qui est envoyé prendre le pouvoir dans la douceur. Et juste de vous lire cette prophétie de Zacharie. Éclate de joie, Jérusalem, crie de joie, ville de Sion, regarde. Ton roi vient à toi, juste, victorieux, humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Un roi doux et humble, monté sur un ânon. Est-ce qu'on envisage des dirigeants pour nous qui soient doux et humbles ? Ou est-ce qu'on se dit, non, non, pour la France, à l'international, il faut une poigne ferme, il faut quelqu'un qui sache tenir tête, quelqu'un qui ait du charisme, qui en jette, qui impressionne. Sinon, on va se faire marcher sur les pieds. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je ne suis pas en train de vouloir influencer vos votes, pas du tout. Je suis en train de vouloir nous faire réfléchir sur jusqu'où on est prêt à appliquer l'évangile dans nos vies. Ah oui, alors d'accord, donc le Seigneur est un roi serviteur, doux et humble, qui ne cherche pas la guerre, mais qui cherche la paix. Et les, hein. Ok, donc ça, il faut que j'applique dans ma vie, en tant que parent, en tant que conjoint. Mais quand même, en termes de politique internationale, là, il faut une poigne ferme. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous voulons que ce Jésus revienne. Hier, on l'a chanté plusieurs fois, Maranatha, viens Seigneur, viens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il revienne et qu'il établisse son royaume de douceur et de paix partout. Oui ? Sauf à l'international, parce que là, quand même, je prends cet exemple de l'international parce que c'est typiquement un moment où on veut un président ferme et directif et ceci et cela. Mais ça peut être dans d'autres domaines. À vous de voir les petits bastions de votre vie où ça ne vous paraît pas raisonnable d'appliquer les principes du royaume. Et je ne vous demande pas de les appliquer demain. D'en prendre conscience, de se dire tiens, pourquoi est-ce que je suis prêt à appliquer le royaume jusque-là, puis au-delà ? Non, ça ne me paraît pas raisonnable. Qu'est-ce que ça ferait ? Ce roi, quand il vient, il veut supprimer les chars de combat, les chevaux, les arcs, les engins lanceurs de missiles subatomiques, les missiles supersoniques russes et les armes de combat et tout ça. Vous êtes des disciples de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous nous revendiquons de ce roi doux et humble qui monte sur un ânon. Nous. Mais si nous nous taisons, qu'est-ce qui va se passer ? Les pierres elles-mêmes crieront. La création elle-même soupire à ce que ce roi prenne le pouvoir et soit manifesté sur toute la terre. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains. Quand il dit « La création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non pas parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a soumise. Elle a toutefois cette espérance, c'est que cette même création sera libérée du joug du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage. La création tout entière attend avec impatience le moment où Dieu, révélera ses enfants. C'est nous, ses enfants. Donc oui, si les disciples de Jésus, si nous, son Église, nous cessons de crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux », les pierres se mettront à crier. Donc, ne nous taisons pas. Mais osons nous confronter dans ma vie. Est-ce que j'accepte vraiment ce renversement radical des choses ? Que l'autorité, elle émane de celui, elle revient à celui qui est prêt à se mettre au service d'eux, mais au service réellement, pour la gloire de Dieu et pour relever ceux qui sont faibles et ceux qui ont besoin. Est-ce que je suis prêt vraiment dans ma vie à considérer que l'humilité et la douceur manifestent plus la grandeur, ce qui est admirable, que la force ? La fermeté, la capacité à s'imposer. Est-ce que la paix et l'harmonie priment ? Est-ce que nous sommes prêts à manifester ce corps du Christ ? Quels sont les lieux de ma vie où c'est difficile de vivre le royaume ? D'espérer le royaume, d'imaginer qu'on puisse vivre le royaume. Je vous avoue que moi, c'est vraiment en prenant un peu ces idées-là en compte, il y a des années de ça, ça a bouleversé mon regard sur la politique. Comment est-ce que je peux voter ? Quels sont mes nouveaux critères ? Parce que le Christ est le roi des rois. Parce que ce Christ-là qui est doux et humble, qui reçoit le pouvoir parce qu'il est le serviteur, qui offre sa vie en sacrifice pour ceux sur qui il règne, c'est lui mon roi. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence sur mon regard, sur ceux qui exercent l'autorité, sur mon pastorat, sur les responsables des églises, sur les maires, sur les enseignants, tous ceux qui exercent une autorité. Subitement, je les ai pris comme modèle, Jésus, et je les ai tous comparés à ça. Et ça a vraiment bouleversé des choses dans ma vie. Enfin, ce Christ nous révèle le meilleur Dieu qu'on pouvait espérer au-dessus de nous. Un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui vient au secours de ceux-là même qui l'ont rejeté. Et ça nous rassure. Quel que soit le parcours que vous avez à faire, quel que soit le nombre et la taille des forteresses dans votre vie où l'Évangile a du mal à pénétrer, le Dieu qui vient à la conquête de votre cœur vient en toute douceur, en toute patience, en toute bienveillance. Il n'est pas un Dieu qui vous tordra le bras. Il n'est pas un Dieu qui vous fera du chantage. Il n'est pas un Dieu qui vous menacera. Il est un Dieu qui déjà vous aime. Déjà, vous a choisi pour être avec lui. Il aura toute la patience et toute la douceur, toute la bienveillance et tout le pardon dont vous aurez besoin pour cheminer avec lui. La grâce, le fait de pouvoir pécher sans être rejeté. Le fait de pouvoir pécher sans être rejeté. Vous pouvez vous en servir, on peut s'en servir pour abuser. Auquel cas, on abuse et on est, comment dire ça, on est négligent et méprisant vis-à-vis du sacrifice de Christ et vous ne tiendrez pas longtemps sur ce chemin.
parce que ça va vous écraser à l'intérieur de vous.
Ou alors cette grâce, le fait qu'on puisse pécher sans être séparé de Dieu,
je peux m'en servir pour apprendre, pour essayer de suivre Jésus et rater. Auquel cas, le Seigneur vous y encourage. Vas-y, c'est fait pour ça. C'est fait pour grandir. C'est fait pour se sanctifier. Ce pardon illimité que je te corde, on l'a chanté, hein.
C'est pour que tu puisses tomber sur le chemin, te tromper de route, autant de fois que tu as besoin pour trouver la vraie façon de marcher à ma suite. Alors, pourquoi t'arrêter? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi ne pas continuer? Notre roi vient à nous monté sur un ânon. Notre roi vient à nous plein de douceur et d'humilité. Notre roi vient à nous non pas comme un conquérant, mais comme un libérateur. Comme un libérateur. Notre roi vient à nous non pas pour nous dominer, mais pour avoir ces mots qui vont nous relever. Ne le craignez pas. Ne le craignons pas. Venons à sa rencontre. Emparons-nous, recevons cette grâce par laquelle je vais recommencer perpétuellement à marcher à sa suite. Et je prendrai cette grâce comme un baume perpétuel pour me purifier de mes péchés, pour demander le pardon, pour vivre son pardon et lui ressembler de plus en plus. Ce texte des Rameaux ne nous le dit pas, mais vous le savez. Jésus n'est pas un monarque absolu. Jésus est un roi qui va vouloir partager profondément son autorité. Il la partage avec vous et avec moi. Il a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ce règne de douceur, d'humilité, de miséricorde qu'il établit dans les cieux et qu'il va établir sur la terre, vous êtes celles et ceux qui allez l'établir à votre tour. Marcher dans la grâce, être transformé à l'image du Christ, accepter cette autorité humble et douce, accepter qu'elle se manifeste dans ma vie et la propager à mon tour en devenant un serviteur. Voilà la façon dont je témoigne de mon espérance en Christ. Voilà la façon dont je bénis les autres. Et voilà pourquoi je reçois cette grâce. C'est pour devenir cette source de bénédiction à l'image du Christ à mon tour. Nous votons pour un président qui va régner 5 ans sur nous. Et sauf surprise exceptionnelle, vous n'aurez rien à faire pendant ces 5 ans pour régner sur le pays. Le Christ, lui, établit un royaume éternel dans lequel il vous emploie. Et il ne se passera pas grand-chose sur terre si nous ne rentrons pas dans nos vocations de prêtre et de prêtresse pour prier, pour servir, pour bénir et pour annoncer le royaume. Il n'a absolument aucune intention de régner tout seul. Mais il a manifesté clairement à ses disciples, et ses disciples nous l'ont transmis, qu'il ne s'intéresse qu'à régner à travers nous. C'est tout l'inverse. À vous de voir comment est-ce que vous voulez vivre votre vie de foi. À vous de voir jusqu'où vous allez laisser pénétrer ce royaume en vous, dans votre vie. À vous de voir comment est-ce que vous allez vivre cette grâce. Est-ce qu'elle va vous permettre d'accéder au salut? Ou est-ce qu'elle va vous permettre de devenir un serviteur fécond pour le Seigneur? Je pense que c'est la deuxième option qu'il faut suivre. et je vous y encourage de tous mes voeux. Je vous laisse en relisant ce que dit Paul aux Philippiens. Seulement, je lis le passage un petit peu au-dessus. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres, supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.